France Inter.
Marie-Bert, Raphaël Quenard, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Pourquoi écrivez-vous, Marie-Bert ?
C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour préserver une sensibilité parfois exacerbée, sans la faire taire et sans me couper du monde. Je pense qu'on rencontre le mieux les autres à travers nos singularités et pas en dépit d'elles. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui on aurait envie de poser cette question, la question inverse. Pourquoi n'écrivez-vous pas ?
Raphaël Quenard, si vous étiez un livre, quel en serait le titre ?
Moi, je dis un livre existant, je dirais.
Peu importe.
Ah, sinon j'aurais dit soit belle amie, soit le démon.
Oui.
Si vous étiez... Sinon j'aurais dit l'imposteur. Fait référence
au livre, à la pièce de Marie-Bert. Si vous étiez un mensonge, Marie-Bert.
Si j'étais un mensonge, je pense que j'essaierais d'être un de mes personnages romanesques, mais je n'ai pas vraiment besoin de mentir du moment qu'ils sont là pour exprimer à la fois des vérités profondes et des aspirations secrètes.
Et vous, Raphaël Quenard, si vous étiez un mensonge ?
Moi, je dirais le mensonge dont on se rend coupable pour éviter un temps les représailles, notamment de la famille ou les punitions, mais dont on sait que quand on le racontera et que prescription il y aura, il sera la source de bien des rigolades.
Votre mot préféré de la langue française, Raphaël ?
Alors moi, celui-là, c'est impeccable. Et parce qu'on m'a expliqué sur ce mot-là pourquoi la langue française était parmi tous les dialectes et langues existantes la plus riche, en me disant qu'on plaçait l'accent tonique où on voulait, sur les syllabes qu'on voulait, sans en changer le sens et perturber la compréhension. Et donc, on peut faire impeccable, impeccable, impeccable. Et donc, on m'a expliqué la richesse de la langue française sur ce mot, et c'est vrai que je l'utilise à foison.
Et en Suisse, on dira peut-être impeccable.
Impeccable.
Voilà, Marie-Bert. Et celui que vous aimez le moins, Marie-Bert ?
Alors, je le dirais pas parce qu'il est trop dégoûtant, mais par contre, je déteste le mot fantaisie parce que j'ai l'impression que les gens l'emploient quand ils n'en ont pas.
Oh.
France Inter, Radio-Canada. RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassen.
Bienvenue dans l'émission Etc. Aujourd'hui, il sera question d'imposture, d'imaginaire débordant, de double vie et des petites voix pas très nettes qu'on garde dans un coin de la tête. Je suis ravie d'accueillir Marie-Bert, écrivaine et metteuse en scène suisse. Dans son roman Être de papier, elle raconte l'histoire d'Aline, une femme qui s'est inventée une vie professionnelle pendant plus de 10 ans. Quand la vérité éclate, tout vacille, et notamment son couple. Mais attention, ce roman n'est pas une chronique conjugale, c'est bien plus que ça. C'est une plongée dans l'imaginaire d'une femme qui a préféré le mensonge à l'effacement. Un livre plein de drôleries et de douleurs aussi, qui interroge notre besoin d'exister aux yeux des autres. Face à elle, Raphaël Quenard, acteur césarisé et désormais romancier à succès. Avec Lemsé Atatawine, il signe un texte radical, tranchant, dérangeant. On entre dans le cerveau d'un marginal, en guerre contre la société, qui décide de faire payer son échec personnel à travers une série de crimes. C'est noir, absurde, excessif, baroque et traversé par une énergie verbale hors norme. Deux auteurs de livres différents en apparence et pourtant une même question en filigrane. Jusqu'où peut-on aller pour se raconter ? Faut-il dire la vérité pour être sincère ? Et est-ce que l'imaginaire, parfois, n'est pas plus réel que le réel lui-même ? On en parle tout de suite avec nos invités du jour et avec nos libraires francophones, présents comme chaque semaine tout au long de l'émission. Vous écoutez Etc, c'est parti !
Etc.
Rebonjour à tous les deux, Marie-Bert et Raphaël Quenard. Je suis ravie de recevoir deux menteurs professionnels. Alors d'abord vous, Raphaël Quenard, parce que vous en avez fait votre métier, puisque vous êtes acteur. Et vous, Marie-Bert, vous en avez fait la matière de votre dernier roman. Quelle place vous accordez au mensonge l'un et l'autre, Marie ?
Déjà, je pense que c'est difficile de mettre en vis-à-vis le mensonge et l'imaginaire, parce que l'imaginaire est omniprésent. C'est même parfois une injonction sociale de mentir pour rentrer dans les cases, pour répondre en fait à ce qu'on nous demande.
Est-ce que, en tant que metteuse en scène, vous avez l'impression, quand vous écrivez notamment du théâtre, de mettre en scène des mensonges ?
Non, j'ai l'impression que du moment que les personnages sont vécus de l'intérieur par leur auteur, puis par les interprètes, il n'y a pas de mensonge possible, il y a plutôt une recherche de vérité en soi qui devient une vérité aussi tournée vers les autres.
Et vous, Raphaël Quenard, menteur professionnel, ça vous va ?
Oui, de par l'activité que j'exerce. Mais pour la question là, sur l'imaginaire et tout, moi je trouve que comme l'imaginaire découle le réel, en vrai, et que l'imaginaire peut être initialement une forme de mensonge, en vrai, le mensonge, c'est la racine du réel. Le mensonge qu'on se raconte à nous-mêmes et les rêves qu'on formule, c'est des mensonges, vu qu'ils ne sont pas encore concrétisés. Donc l'imaginaire, c'est le réel avant le réel.
C'est très beau. Marie Baird, dans votre roman, tout part d'un mensonge. Et c'est assez génial, je dois dire. Aline et Yann forment un couple heureux. Aline a un accident, je raconte l'histoire parce que c'est quand même très fort. Aline et Yann sont heureux. Aline a un accident au début du roman, mais quand Yann prévient l'école où elle est censée enseigner depuis 15 ans, personne ne la connaît. Elle n'a jamais été prof. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce point de départ ?
J'avais envie de comprendre pourquoi cette femme devait se forger un alibi, pourquoi elle ne pouvait pas être aimée telle qu'elle était, notamment par son conjoint, mais aussi par tout son cercle proche. Elle était persuadée qu'elle devait occuper une position sociale pour être digne de reconnaissance. Et c'est une femme qui a plusieurs facettes et qui les vit comme contradictoires, à la fois dans sa maternité, dans son couple, mais aussi dans ce travail qu'elle prétend avoir. Et elle est visiblement obligée de se cacher pour pouvoir se sentir elle-même, et elle ne peut se sentir elle-même que dans la solitude ou dans le contrôle de ce que les autres comprennent d'elle, en fait. Parce que pour rebondir sur ce que disait Raphaël, c'est vrai que l'imaginaire, c'est aussi l'amorce de lien vers l'autre. On ne peut pas donner notre image mentale à l'autre quand on raconte quelque chose qui nous est arrivé ou quand on veut, par exemple, présenter quelqu'un. On rencontre quelqu'un pour la première fois, puis on dit « Ah, je ne l'imaginais pas du tout comme ça ». Mais ce n'est pas parce que l'autre nous a menti, c'est simplement parce qu'on se forge une image mentale qui n'est pas directement accessible et qu'on est obligé de passer par les mots ou de passer par... parce que l'autre peut comprendre pour l'amener à se rapprocher le plus possible de ce qu'on essaye d'exprimer.
Raphaël Quenard, à ce sujet, il y a un passage que j'aime beaucoup dans votre livre. Est-ce que vous accepteriez de nous le lire ?
Bien sûr.
Ça rejoint ce que vient de dire Marie Baird.
Alors, comme toujours, je suis prompt à changer d'avis, à dire tout et son contraire pour le simple plaisir de la contradiction. J'aime ça. Arrimer le matin à une idée, je m'empresse de vivement la contester en début d'après-midi. Gloire à tous ces honnêtes gens qui piaillent à tort et à travers, ces honnêtes gens qui commencent leurs phrases sans en connaître la destination. Ouvrir la bouche, c'est se promettre de galoper dans les landes infinies de notre langue bénie. Rien de plus. Existe-t-il plus plaisante perspective ? Dire tout et son contraire, c'est le début de la transparence. C'est le seul moyen de retranscrire avec justesse le chaos d'une âme humaine.
En lisant ça, je me suis dit que c'était la définition, c'était une définition parfaite de la fiction.
De la fiction ?
Vous
diriez que la fiction, c'est du n'importe quoi ?
Non, de pouvoir dire tout et son contraire et de retranscrire la contradiction humaine.
Ouais, je suis d'accord, mais j'ai l'impression quand même que dans la fiction, on essaie quand même... pour que l'esprit du spectateur soit au clair, on va dire, de conserver une forme de cohérence.
Ouais.
Et c'est là où le bas blesse. Parce que,
vous êtes pas
en
obligé.
Vérité, dans la littérature, on peut exposer des personnages qui sont beaucoup plus paradoxaux, beaucoup plus nuancés et aller naviguer dans les méandres de leur complexe psychologie. Et du coup... c'est là que moi je trouve que c'est plus intéressant et que ça rend plus, en tout cas que c'est un espace de liberté infiniment de fois plus plaisant à parcourir.
Mais vous pouvez aller dans l'incohérence aussi dans l'écriture.
On peut, bien sûr. D'ailleurs, il y a des livres que j'ai jamais compris.
Chez Ionesco, chez Beckett.
Je pensais à le livre de Faulkner, là, comment il s'appelle ? La Fureur, non ?
Ah oui,
Le Bruit, la Fureur.
Ouais.
J'ai jamais bien compris ce qui s'y tramait. Mais pour autant, l'incohérence n'empêche pas de ressentir une forme de plaisir, parce qu'on ne sait pas d'où jaillit la poésie et d'où jaillit la grâce. Et dans ce feu d'artifice de contradiction, il y a parfois l'étincelle du plaisir qui vient nous télescoper.
Alors ce qui est fascinant dans vos deux livres, c'est aussi ce goût commun de la marge, de la marginalité. On en parle dans quelques instants, mais d'abord on écoute Ben PLG, « Paraît que les miracles n'existent pas ».
Qu'est-ce que je fais sur la scène ? Pendant que le temps s'arrête pas de courir comme le lapin Duracell, un peu traumatisé par cette vie, par les silences et les plates pattes où on voyait trop l'assiette. Papy m'a vu sur la chaîne, il m'a dit c'est un bug, La télé déconne, ça fout la flemme. Y'a pas longtemps, il est parti, sans prévenir personne. Avec une cigarette qui brûlait comme un cierge. J'parle un peu trop fort et je veux plus qu'on la ferme jamais. Mamie s'est brisé le cœur en tombant dans les escaliers. L'orage le laisse parler, le temps nous blesse. On pourrait croire que la vie nous teste. Les coups durs c'est comme les vieux, je laisse passer. Beaucoup d'amour, pas beaucoup de degrés Celsius. Trajectoire floue comme les ballons quand la balançoire faisait le but. Faudrait que tu manges un petit truc, ma mère elle dira toujours ça. Pour toi j'aurais toujours faim et sans toi j'aurais toujours froid. Rien n'a changé, y'a des enfants dans les tôles. Je viens de là où tu t'en doutais pas, mais t'as un oncle dans les rôles. Histoire de promesses sous le préau de poussière sous le tapis. Je suis bien élevé mais je dirais des gros mots toute ma vie. Je suis venu comme je suis, je résiste pas. Dis-toi que je connais les mêmes crises que toi. Je laisse couler les larmes, je fais fuir le diable. Paraît que les miracles n'existent pas. N'existe pas, j'ai déjà passé un entretien en Kipsta. J'ai eu le job, donc je crois en tout comme les fous. Je crois en moi, je crois en nous. Je crois pas les mecs en costume ou que la branlette, ça rend sourd. Je rappe comme un salopard. On s'est lavé dans des bassines comme 25G dans le clip de Cabochard. J'ai peur qu'on me laisse tomber, j'aime pas quand elle me dit à l'occasion. Ma mère, elle veut pas de cadeau, elle veut juste que je sois pas en retard. Je me réveille, j'ai toujours le même poids sur les paupières. 10 minutes dans l'eau bouillante, je mets toujours le même pot sur les coquettes. Trop fier pour négocier comme quand papy payait trop cher. Trop fier pour pas se relever après le crochet. J'étais fauché comme les blés. La vie ça coupe comme l'épée. On est tombé, on est revenu avec une envie de tout baiser. Elle a vu ma gueule toute blessée et elle m'a trouvé beau. Ma gueule même quand t'es tout zéro. Y'en a pour quitter le grand héros. Je suis fatigué et je sens le bédo. Nique sa mère, ça pue plus la défaite. J'écoute pas mon président, j'écoute les histoires de la caissière. Le juge et la greffière et leurs airs dont vous l'avez dit. Je vous souhaite des heures d'embouteillage dans une voiture qui coûte les acédiques. Je suis venu comme je suis, je résiste pas. Dis-toi que je connais les mêmes crises que toi. Je laisse couler les larmes, je fais fuir le diable. Paraît que les miracles n'existent pas.
Etc. Et nous sommes toujours en compagnie de l'autrice et metteuse en scène Marie Baird et de l'acteur et prime romancier Raphaël Quenard. Raphaël Quenard, dans votre livre, le narrateur traverse toutes les classes sociales. Les journalistes parlent souvent de votre façon de parler. Moi, j'y vois surtout une manière consciente ou inconsciente de naviguer justement entre les milieux et de résister à une forme d'étiquetage social. D'où vous vient ce goût de la marge ?
Alors, moi déjà, ce qui me fait rêver, là je vais citer des noms d'auteurs, évidemment, on est tous forcés de s'incliner et de se mettre à plat ventre devant eux, mais tu vois, par exemple, chez Tchekhov ou Shakespeare ou Molière, ce que j'aime bien, c'est que la fulgurance, elle provient de n'importe quelle extraction, et en vrai, ils rendent hommage à tout le monde, parce que moi, je rêve davantage devant des magiciens que je croise au quotidien, et qui me donne à ressentir des émotions et qui nous délivre des prestations artistiques de haut vol, parfois à même la rue. Et en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus savoureux, de beaucoup moins calibré, policé, qui doit moins s'inscrire dans un cadre conventionnel.
Vous n'aimez pas quand c'est préparé, en fait, les choses préparées ?
Si, c'est beau aussi, parce que ça veut dire qu'il y a eu tout un travail en amont et tout, et il y a un rendu qui est consommable plus largement, mais parfois dans les petits faits du quotidien, j'ai l'impression que j'y trouve plus de matière à ressentir des émotions. Tu vois, des fois tu vois un enfant passer et qui crie pour aller jeter dans les bras de son père ou de sa mère, t'as les larmes aux yeux, bon, on te l'a pas mis forcément dans le spectacle, et c'est des petits moments futiles et tout qui te font ressentir des choses d'une intensité infiniment de fois supérieure à ce qu'on peut ressentir dans des spectacles
dans des cadres,
entièrement conçus, qui ont nécessité des années de préparation et tout, tu vois.
Vous, Marie-Bert, livre après livre, vous dessinez aussi une forme d'éloge de la marginalité, des personnages cabossés, des psychiatres en crise, des familles bancales. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez ceux qui ne rentrent pas dans les cases ?
Je sais pas si c'est que ça me plaît tant de pas rentrer dans les cases, ou si simplement j'y arrive pas, ou si simplement je me sens mieux à la marge. Mais ça, ça remonte à l'école, je crois. Il y a eu un malaise scolaire assez intense. Je crois que les sociétés ont besoin de marge. Et il y a plusieurs de mes livres où on voit que finalement les personnages à la marge sont ceux qui sont le plus à même d'accueillir l'imprévisible, ou finalement de recevoir aussi ce que la vie apporte et qui n'est pas attendu ou construit. J'ai aussi beaucoup pratiqué les arts de la rue comme musicienne, et c'est vrai que même encore maintenant je pratique plus, mais je trouve qu'il y a un plaisir plus grand à jouer dans la spontanéité du lien et à quelque part faire arrêter les passants, pouvoir interpeller les passants là où ils sont en dépit de là où ils vont, plutôt que de capturer un public même avec sa volonté.
Et justement, vous, quand vous étiez, parce que vous avez donc pratiqué les arts de la rue, qu'est-ce que vous ressentiez? Est-ce que à chaque fois, vous essayez de faire quelque chose de nouveau. C'est quel plaisir vous ressentiez ?
Je pense que c'est comme au théâtre, on travaille avec l'énergie du public et on va pas dans la même direction si on sent que quelqu'un écoute ou si on sent qu'on est tout seul. Donc c'est toujours un peu une surprise de savoir avec qui on va travailler. Après, il y a aussi des gens qui réagissent très très mal aux musiciens de rue et qui peuvent même crier « allez travailler, vous n'avez pas honte ?» Ou alors aussi des hommes qui essayent de tirer profit de la situation, voyant des jeunes femmes qui se produisent comme ça. Et donc voilà, ils espèrent se rendre utiles de diverses manières qu'on ne leur demande pas.
Raphaël Quenard
nous propose, moi je trouve, alors même qu'ils nous font le cadeau de quelques secondes de fuite, et donc de s'écarter, contourner, on va dire, le néant qu'on essaie d'éviter, celui de nos existences et de nos propres intériorités. C'est un cadeau quand il y a quelqu'un qui s'expose et qui se met à nu, qui baisse le pantalon en public, enfin pas baisser le pantalon au sens propre, mais je veux dire métaphoriquement. Et dans cette forme de mise à nu, il y a un cadeau qui nous fait, qui est un nouvel espace de fuite qu'on devrait s'empresser de...
Vous parlez beaucoup de la fuite, j'ai remarqué.
Moi, mon livre préféré, c'est L'éloge de la fuite, de Henri Laborie.
C'est très drôle, parce que moi, c'est un livre que j'ai acheté il y a un an pile. Que je suis tombée dessus dans une librairie. Je me tourne vers Thomas Auxerre, notre libraire qui est avec nous aujourd'hui en studio. Et je suis tombée dessus en librairie, et c'est le titre qui m'a attiré. Et je trouve que c'est un très beau livre, justement, qui nous fait comprendre que la fuite n'est pas la lâcheté, en fait.
Déjà, et puis la fuite, on s'y complaît. Et franchement, c'est le meilleur des remèdes, en vérité, pour échapper à soi-même. Et en vrai, tout est une forme de fuite. Là, vous venez exercer un métier, c'est une forme de fuite pour se donner l'impression d'exister. Nous, on vient en se donnant l'impression d'exister, en ayant écrit un truc. On essaie tous de fuir à travers des choses, à travers un couple.
Alors, quand est-ce que vous ne fuyez pas, Raphaël Quenard ?
Jamais. Franchement, jamais, parce que même quand je me retrouve seul face à moi-même, j'essaie de consommer avec une avidité parfois pathologique des œuvres d'art. Et du coup, même dans mes seuls espaces où je devrais me confronter...
Est-ce que la consommation d'œuvres d'art est une fuite ? Est-ce que ce n'est pas le moment, justement, d'un recentrement ?
J'ai l'impression que c'est à la fois... Il y a une phrase qui dit « Il faut lire, non pas pour engloutir, mais pour voir si ça peut servir. » Et en vrai, c'est plus pour essayer de puiser dans une...
Ça fait rire Marie-Bert.
Dans une besace, une petite boîte à outils. On voit... Mais au même titre que devant les films, tu vois, des fois, tu vois des scènes et tu te dis « Ah ouais, putain !» Si un jour je me retrouve dans cette situation, c'est comme ça qu'il faudra que je réagisse, et tu essaies de te l'ancrer dans un coin de ta tête. Et en vrai, un livre, ça te donne plein d'armes, ça t'ouvre des espaces de réflexion, ça te fait rêver, ça nourrit la discussion du soir. Donc c'est une boîte à outils qui va te permettre de renforcer ta carapace.
Et à quel moment vous ne fuyez pas alors ? Tout le temps.
Franchement, je te dis, franchement, je pense que je suis dans une fuite permanente.
Il fuit même la question.
J'ai beau la reposer, elle n'aura pas de réponse.
Parce que
question.
Tu sais pourquoi ? J'ai l'impression que tout le temps, et en plus, avec la recherche de l'inconnu, parce que y a t'aimes bien en apprendre sur toi-même. Je pense, pour en apprendre sur soi-même, c'est un navigateur, Éric Bayon. Il a fait un film qui s'appelle Comme un seul homme, où il fait le tour du monde en bateau. Et il expliquait à l'avant-première que lui, ce qu'il recherchait dans la vie en tout premier lieu, c'était de jeter son corps dans des situations d'inconnus pour voir comment il allait réagir à ses dépens, pour apprendre à se connaître. Et en vrai, notre inconscient, il a beaucoup plus à nous apprendre que toutes les convictions qu'on se forge. Et du coup, y a ce truc de tu veux jeter ton corps dans un espace inconnu pour en apprendre sur toi-même, mais tu fuis en permanence pour voir comment tu réagis.
C'est pour ça que vous touchez à tout.
Moi, je ne suis pas touche à tout. C'est quand même limité. Je ne suis pas astrophysicien.
Vous avez fait plein de choses.
Ouais. Bah après, toutes les choses...
Vous avez fait de la chimie, vous avez fait du cinéma, vous êtes scénariste...
Bien sûr, mais ça reste un spectre réduit devant l'infinité du champ des possibles qui s'offre à nous en ce bas monde.
On verra la suite alors. Raphaël Quenard, dans cette émission, on reçoit chaque semaine des libraires qui ont lu les livres de nos invités. Cette semaine, c'est Thomas Auxerre de la librairie L'Amandier à Puteaux qui vous a lu. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Vous êtes en studio avec nous. Je vous laisse nous donner votre sentiment sur ce livre original qui est déjà un succès de librairie.
Oui, alors en fait, j'étais très curieux de voir ce qu'allait donner votre premier roman, Raphaël. Pour être honnête, je m'attendais à un truc un petit peu sociétal, un petit peu théorique aussi. Et puis là, grosse surprise de découvrir un texte avec un salopard de première en personnage principal, avec une histoire qui flirte à la fois avec le thriller assez trash et le roman social un peu déglingo. Alors l'ensemble donne dans l'efficace et la quête un petit peu boucherie-charcuterie de votre héros psychopathe, moi, m'a plu. Et puis enfin, je dois dire que votre écriture fait parfois mouche. Il y a des belles réflexions philosophiques au ton vraiment bien senti, comme là, sur le plateau, et quelques passages où moi, j'ai ri à des moments où je me suis dit après, ah non, là, j'aurais pas dû rire. Et moi, je trouve que ce côté amoral, ça fait vraiment pour moi la signature de votre livre.
Je réagis à ce que vous venez de dire, Thomas Auxerre, quand vous dites que vous vous attendiez à un texte plus théorique. Ça veut dire quoi ?
Eh ben, peut-être plus théorique, peut-être parce que je crois que, Raphaël, je vous ai découvert par votre personnage de Yannick, vous incarnez un spectateur comme ça qui se rebelle dans un théâtre.
Faites les plombs.
Parce que voilà, rien ne va et qui a l'audace de ses idées, qui prend tout le monde en otage, mais aussi qui a des réflexions ultra profondes sur la vie, sur l'art. Et je sais pas, je m'attendais à ça. Et comme quoi, faut vraiment pas du tout rester sur des idées figées parce que.
Mais justement, vous aviez une question pour Raphaël Quenard.
Oui, moi j'avais une question parce que quand on écrit un tel livre, Raphaël, moi je me demande quelles ont été les réactions de vos premiers lecteurs et de vos proches. Est-ce qu'il n'y en a pas un ou deux qui a fait un petit pas en arrière quand même à la lecture, ou il n'y en a pas un ou deux qui vous tourne le dos depuis ?
Pas tourner le dos. Pour le coup, le retour qui m'a le plus interpellé, c'est celui de ma mère, qui m'a simplement dit « J'ai lu ton livre, j'ai des questions à te poser, depuis Silence Radio, et on n'en a plus jamais reparlé. » Mais donc, après, y a plein de retours, il y a un foisonnement d'avis divergents et tout ça, mais ça fait trop plaisir de voir que ça peut résonner en des gens et tout, parce que moi, je n'avais pas du tout conscientisé. Bon, après, moi, c'est la première fois, Marie... T'as plus d'expérience et tout. Mais quand je me trouvais face à mon ordinateur, j'étais vraiment dans ma petite relation personnelle, comme dans mon petit chez-moi, dans mon petit cocon, et j'avais pas du tout conscientisé. En plus de ça, j'avais aucune opportunité d'édition. Donc j'avais pas conscientisé que j'allais être confronté à des retours. Et vraiment, j'ai ressenti une forme de vertige à l'approche de la sortie. Quand j'ai connu la date, de façon précise, là je me suis dit, merde. Et je me suis dit, mais un tel, il va pouvoir y avoir accès, un tel. Il y a peut-être des gens qui vont se rappeler des interactions qu'on a eues et tout.
Vous aviez peur de quoi exactement ?
Parce que comme tu n'écris qu'avec ce que t'es, du coup, tu utilises des réflexions que t'as menées avec différentes personnes. Et du coup, j'avais peur de voir qu'en gros, l'intimité de ce qu'on avait partagé allait être diffusée et rendue accessible au plus grand nombre. Tu vois, il y a quand même un truc...
Vous avez pensé le publier sous pseudo ?
Au début, oui. Et puis, j'ai voulu faire deux fois sous pseudo. Une fois, d'abord, ça avait été initié par un agent qui m'avait dit que Quenard était immonde, comme nom.
Ça, c'était avant que vous soyez acteur.
Acteur, je faisais déjà des petits trucs et tout. Et elle m'avait dit, on va pas se mentir, c'est moche, viens, tu prends un pseudo. J'avais pensé à ce pseudo. Et puis, j'avais changé d'agent avant de mettre ça en application. Et puis après, j'ai avancé. Et après, quand j'ai eu ce livre, je me suis dit, ah ouais, bon, alors je veux bien différencier, parce que c'est vrai que parfois, avec un film, les gens que tu peux croiser, à l'image de ce que vous venez de dire, ils peuvent confondre avec le personnage qui leur a été donné à voir. Et du coup, j'avais vraiment... Donc du coup, notre nom personnel, notre identité civile, si on signe pas sous un pseudo, elle est un peu confondue avec des personnages. Du coup, il y a un truc un peu bizarre. Si tu fais une comédie, on va te taper dans le dos.
Parce que vous êtes vous-même un personnage.
Alors, comment tu vas? Si tu fais un thriller, il y a des gens, ils font des rôles de méchants, et puis les gens, elles les craignent un peu, et vont... Bon, et du coup, j'avais envie de distinguer ça, parce que comme c'est une activité qui est autre, j'avais vraiment envie de la mettre à part. Et j'ai voulu faire ça. Après, il y a eu un certain micmac
qui
s'est dessiné.
Entre le bandeau et le nom sur
avec une photo, etc. Tout ça faisait plus grand sens. On s'est pris les pieds dans le tapis, en somme. Et du coup, on a battu en retraite et on a dit, vas-y, non, viens, on signe normalement et on fait les choses dans les règles de l'art.
Et Thomas, vous aviez une question sur l'adaptation, et puis après je vous donne la parole, Marie-Beth.
Oui, je me demandais, Raphaël, est-ce que vous pensez adapter ce texte
au
cinéma?
J'aimerais trop. J'en ai déjà parlé avec des personnes, mais je sais pas quelle forme ça prendra à la finale. Mais en tout cas, moi, j'ai quelqu'un en tête dont je ne dévoilerai pas le nom, nul besoin de me soumettre la question, mais j'ai quelqu'un en tête que j'aimerais trop voir incarner ce personnage.
Est-ce qu'on peut donner des noms?
Un indice.
Moi, j'aurais bien...
Indice corse. C'est un indice corsé.
Un indice corsé. Un indice on va réfléchir. Merci beaucoup, Thomas. Marie-Bert, vous voulez réagir?
Oui, je voulais dire à Raphaël que d'expérience, les gens, même quand on a envie qu'ils se reconnaissent dans les livres, ils n'y arrivent jamais. Et parfois, ils se cherchent là où ils ne sont pas. Exact. Donc, quelque part, il faut peut-être laisser de côté cette question-là. Par contre, c'est vrai qu'on est parfois confondus avec nos personnages. Moi, ça m'arrivait moins quand j'écrivais comme psychiatre de 56 ans. Mais c'est très intéressant ton texte parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui a à peu près ton âge, qui vient plus ou moins de la même région. Et très souvent, j'ai remarqué que les trentenaires qui se mettent à écrire ont beaucoup de peine à parler de quelqu'un d'autre que d'eux-mêmes et de leur expérience. Alors que là, finalement, c'est assez audacieux de rentrer dans l'univers d'un tueur en série. Mais l'amalgame est facile, pas à cause du tueur en série, mais à cause du genre, de l'âge.
Oui.
Et moi, je suis toujours assez stupéfaite qu'on me prête toujours le personnage d'Aline et son discours parce que je suis une femme. Comme si je pouvais pas être...
J'ai pas fait ça, vous avez
non,
remarqué.
Pas vous. Mais ça s'est vu plusieurs fois, en fait. Les gens pensent que je suis forcément derrière le personnage féminin et derrière son discours, alors que finalement, c'est pas un homme qui tient la plume au moment où c'est le mari qui répond, quoi.
Vous, Marie-Bert, votre livre est déjà l'adaptation d'une pièce de théâtre. C'était une pièce que vous aviez écrite pour un concours, c'est ça?
Pour un prix, oui.
Pour un prix.
Un prix théâtre.
Et vous l'avez écrit en une journée?
Oui, alors c'est vrai, c'était peut-être quelque chose qui m'habitait depuis, enfin certainement quelque chose qui m'habitait depuis beaucoup plus longtemps. Je suis pas tout à fait d'accord qu'on parle de fuite dans l'écriture, parce que moi j'ai justement l'impression que j'ai besoin d'écrire quand les gens ont fui, parce que il y a des discussions qui ont pas pu avoir lieu et que finalement moi j'aurais besoin de réponses ou j'aurais besoin de pouvoir faire fonctionner la réponse de l'autre pour lui répondre. Moi, ce qui me fait peut-être le plus peur, c'est le silence, c'est les gens qui se refroidissent quand ils voient arriver un conflit. Donc voilà, j'ai pas envie de parler de fuite, mais je pense qu'il y avait cette discussion qui était là depuis longtemps et ces personnages qui demandaient à exister. Et après, peut-être que l'écriture rapide, c'est aussi un processus qui donne une certaine spontanéité au langage et ça se prête assez bien au théâtre.
En revanche, vous avez des personnages qui, eux, fuient.
Oui, complètement. Il fuit, mais il ne fuit pas vraiment le dialogue. Il fuit peut-être à l'intérieur du dialogue.
Oui, à l'intérieur du dialogue, c'est sûr.
Mais il y a toujours cette confrontation. Et pourquoi est-ce qu'il fuit? Mais parce que chacun se réfugie dans sa conception du monde et l'un est beaucoup plus rationnel que l'autre et ils n'arrivent vraiment pas à se comprendre. Donc chacun s'accroche à son point de vue. Et j'ai des lecteurs qui me disent, mais quel dommage, ce Yann, on aimerait quand même qu'il réponde ça, qu'il réponde ci. On a envie de lui dire, mais écoute ta femme. Et puis finalement, je crois que chacun se raccroche à sa perspective.
C'est toujours comme ça. Marie-Bert, vous avez été lue par notre libraire suisse, Catherine Kohler. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors, vous êtes libraire à la librairie Bostrich à Bienne et vous avez pris beaucoup de plaisir à la lecture de ce texte.
Oui, bonjour Marie-Bert aussi. J'ai trouvé dans votre livre un vrai plaisir de lecture. Il se lit d'un souffle, le rythme est soutenu, les dialogues s'enchaînent avec vivacité, entrelacés qu'ils sont de pensées intimes et de remises en question profondes. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est cette sensation de bascule constante. Au fil des pages, je me suis sentie tour à tour du côté du mari, puis de la femme, puis agacée par l'un, attendrie par l'autre. Et je n'ai jamais vraiment su où me placer. Cette instabilité a créé quelque chose de très vivant, presque vertigineux, qui rend l'expérience de lecture troublante. Et votre roman, il pose aussi la question de ce qu'est une vie juste, pas seulement une vie vraie ou authentique, mais une vie dans laquelle on aurait fait les bons choix, accordé la bonne place aux idées, aux autres, à soi. Et puis, il y a ce sentiment terrible que vous transmettez précisément en ce moment où tout bascule, où l'on réalise que le passé lui-même, il peut être reconfiguré par un simple mensonge, comme l'exprime le mari, je cite, « C'est comme si j'ouvrais l'album photo de notre couple et que toutes les couleurs vives étaient passées. » Et en refermant votre livre, j'ai eu exactement ce sentiment. Tout s'illumine autrement, avec une lumière nouvelle, presque cruelle. Et d'ailleurs, en parlant de sa femme, le mari dit qu'il a l'impression d'avoir toujours été embarqué avec un pilote démoniaque. D'où ma question. Et si ce pilote démoniaque, c'était vous, Marie-Bert, est-ce que pour vous, écrire revient à mentir, comme un auteur manipule son récit, pour mieux approcher une vérité plus vive, plus juste que celle du réel ?
Alors, je vous remercie beaucoup pour votre lecture. Je pense pas qu'écrire ce soit mentir. Au contraire, je pense justement que c'est atteindre des vérités profondes qui sont pas compréhensibles telles quelles, mais c'est de les transcrire pour les rendre lisibles par le plus grand nombre. Et c'est quelque part là où on est peut-être le plus vrai et le plus juste. Et sans causer aux autres le tort de les tromper, de la tromperie. Est-ce que je suis un pilote démoniaque ? Ça, je pense qu'il faudrait demander peut-être... soit à mes ex, soit à mon entourage, j'espère que non. En tant que romancière, j'ai parfois l'impression que le fait même d'écrire, c'est une manière de garder un cap. Mais c'est vrai, je suis peut-être démoniaque parce que je ne sais pas exactement où je vais quand je commence à écrire et j'embarque des lecteurs innocents.
C'est ce qu'a fait aussi Raphaël Quenard. Et Catherine, vous aviez une autre question.
Oui, votre livre, c'est aussi une réflexion sur la douleur dans le couple, mais sur notre besoin d'exister socialement. Aline, elle dit d'ailleurs, c'est grave de penser qu'on n'a pas de valeur aux yeux de ses proches sans que la société nous reconnaisse d'abord. Et je voulais vous demander, est-ce que le cœur du conflit du livre se situe pas là aussi, dans ce décalage entre la reconnaissance intime et la reconnaissance sociale ?
Mais je crois que toute la vie est un compromis entre l'intime et le social, entre ce qui nous habite de l'intérieur et ce qui est attendu de l'extérieur. Et le titre de la pièce, dont est tiré Être de papier, L'imposteuse, ça raconte aussi ce complexe de l'imposteur que beaucoup de gens rencontrent dans le monde professionnel, mais qu'on peut expérimenter partout ailleurs. Moi, je me sens une imposteuse quand je vais au supermarché parce que j'ai l'impression que les autres savent comment choisir, comment ranger leurs courses. Et je pense que c'est vrai avec la sensibilité de chacun dans beaucoup de situations de la vie.
Merci beaucoup Catherine. Je me tourne vers Raphaël Quenard. Ce décalage entre reconnaissance intime et reconnaissance sociale, est-ce que vous le ressentez aussi ?
Ah, la fracture, vous voulez dire ?
Oui, la fracture.
Ah ouais, oui, elle est douloureuse et elle est à la fois bienfaitrice dans le sens où c'est aussi savoureux de se dire que quand même, l'image que les autres peuvent se faire est à des années-lumière de ce que nous, on est dans notre intimité et quand les masques tombent. Et donc, il y a quelque chose qui relève du jardin secret, qu'il est bon, limite, d'entretenir. Et plus on parle, alors ça, c'est une psychiatre qui m'a dit ça. Elle m'a dit, toi, tu parles avec énormément d'images. Et ces images sont autant de barrières que tu viens dresser entre le spectateur et les gens qui t'écoutent. Donc, je pense que c'est vrai, tout notre discours, il sert juste à ériger des murs qui permettent de rendre d'autant plus difficile l'accès à qui on est vraiment, tu vois, on se cache.
La fuite, toujours, décidément. Ah oui. Raphaël Quenard, Marie-Bert, vous restez avec nous quand on revient. On entrera dans vos ateliers d'écriture à tous les deux.
Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Et la lumière dessine sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Que je t'aime. dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur. Quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand tu ne te sens plus chat, tu deviens chien, et qu'à l'appel du loup, tu brises enfin tes liens. Quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui.
Etc. C'était Camille, que je t'aime, et nous sommes toujours en compagnie de Marie Baird et Raphaël Quenard. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassen.
Raphaël Quenard, vous lisez beaucoup. Je me souviens que dans le film Chien de la casse, votre personnage citait le loup des steppes d'Hermanès.
Ah ouais.
Ça m'avait marqué. C'est un goût personnel ou c'était dans le scénario ?
C'était déjà dans le scénario. C'était D'accord. Jean-Baptiste Durand. Et d'ailleurs, il y a des spectateurs qui se sont beaucoup étonnés. Ils disaient, mais pour un provincial, il lit beaucoup le personnage. Et Jean-Baptiste, il leur répondait, mais vous savez, les gens prennent davantage de temps et en consacrent davantage en province, où il y a peut-être moins d'opportunités de distraction futile que dans une ville où les possibilités sont infinies. Et du coup, il y a un temps, je crois que c'est statistique, il faudrait demander à l'INSEE d'approuver les propos. Mais je crois qu'il y a un temps qui est consacré à la lecture qui est plus grand dans les campagnes que dans les villes.
Ça m'avait marqué parce que c'est un film qui jouait justement aussi de cette idée de préjugé social. Et d'ailleurs, dans mon souvenir, ça fait longtemps
parce
que je l'ai vu.
C'était un amateur de drogue douce, il se permettait des petites...
Oui, et donc c'était surprenant à chaque fois de l'entendre parler de textes et de convoquer des textes. Et je me suis dit que, donc je vous ai posé la question si c'était un goût personnel ou c'était dans le scénario, je me suis dit que ça pouvait être les deux. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, Le Loup des Steppes, c'est l'histoire d'un homme qui est déchiré entre son désir de faire partie du monde, d'appartenir à une classe bourgeoise, et son propre chaos intérieur, sa solitude qui est presque une forme de sauvagerie. Je trouvais que ça vous allait bien, Raphaël Quenard.
Ah ouais ?
Non, je me trompe.
Si, si, c'est vraiment, c'est très vrai. Moi, j'avais, alors là, c'est un rêve profond, mais j'avais carrément le rêve d'être un transfuge et de pouvoir aller visiter d'autres classes sociales, tellement que les mystères qui nous alimentent à leur sujet sont grands et foisonnants. J'avais vraiment le goût de pouvoir aller toucher du doigt d'autres milieux, d'autres mondes. Parce que,
c'est ce qui vous arrive aujourd'hui.
Aujourd'hui, franchement, et même le cinéma, ça permet. C'est tellement une conjonction d'une gamme de personnages très, très éclectique. et tu peux rencontrer des pilotes de Formule 1, des gens qui s'occupent de faire du soin par les abeilles, des éleveurs de chats.
Hein, on vit plusieurs vies, ouais.
Mais au-delà de vivre plusieurs vies comme un acteur, de dire « ah ouais, je vais pouvoir vivre plusieurs vies », non, dans le concret de la fabrication artisanale du truc, tu rencontres vraiment une galerie de personnes qui appartiennent à des mondes vraiment différents et de ce fait enrichissant.
Mariba, il est souvent question de maternité chez vous. Je me demandais si ça avait modifié votre manière d'écrire.
On m'a dit, quand je suis tombée enceinte la première fois, t'auras plus le temps d'écrire. Et c'était une grosse erreur de me dire
c'est
ça, parce
plus,
que du coup ça m'a...
Plus le temps d'écrire ?
Bah, plus, je sais pas, mais...
Le congé maternité, ce fameux congé très long.
Effectivement, pendant l'allaitement de ma deuxième, j'ai passé mon temps et j'ai bouclé un roman.
Oh, et en quelle fait, chance.
Je pense que la sensibilité était accrue. Et je pense que la maternité ouvre aussi une nouvelle forme d'empathie et des nouvelles portes sur soi-même en tant que femme. Donc oui, ça a sûrement modifié en partie ma manière d'écrire, mais je pense que c'est aussi une manière de fonctionner qui n'est pas toujours présente suivant le texte que je suis en train d'écrire ou le personnage que je suis en train d'habiter.
Marie-Bert, ce qui m'a marqué dans votre livre, c'est un truc très rare chez les romanciers, l'art des dialogues. Vous êtes très douée pour ça, comment vous les travaillez ? Est-ce que vous les lisez à voix haute ? Comment vous travaillez vos dialogues ?
En fait, je ne les travaille pas vraiment, je les entends. Et c'est des choses qui viennent un peu par premier jet. Une fois que le personnage est concret, peut-être parce que je suis musicienne, il a une voix, et je l'entends et j'entends ce qu'il pourrait dire. Et donc je pense que c'est pour ça que ça sonne vrai, c'est parce que le personnage est déjà là.
Et réaliser un film un jour, ça, vous y pensez ? Ça vous intéresse ?
Ça m'arrive parce qu'on est au théâtre, parfois limité par certaines contraintes, donc j'aimerais fuir le théâtre parfois, comme on fuit sa maternité aussi, avec la plume, avec le théâtre ou avec la réalisation artistique. C'est quelque chose qui pourrait me plaire, d'autant plus que je travaille avec des comédiens qui sont aussi versés dans le cinéma.
Bon, ça viendra peut-être. Qu'est-ce qui est le plus difficile, Raphaël Quenard, l'écriture d'un film ou l'écriture d'un livre ?
Ah bah alors là, de très très loin, l'écriture d'un film pour la multiplicité des intervenants, franchement, c'est il y a tellement de...
Tout le monde a un avis.
Bah, déjà, oui. Tout le monde a un avis. Bon, il y a d'abord la cellule mère, à savoir en compagnie de la cellule de production, mais après, il y a tous les intervenants qui vont venir avoir à financer le film et qui donc portent un regard économique sur l'histoire. Et du coup, ça engage tout un tas de conséquences qui sont... pour moi, parfois, qui paralyse la création ou qui la vide à certains endroits. Et au final, il se peut que ça appauvrisse. Alors, attention, il y a aussi des enrichissements, parce que les intervenants, oui, et les avis peuvent être constructifs et tout. Mais en tout cas, comme il y a une économie qui se cache derrière, ben, du coup, il y a un objectif et une nécessité de rentabilité qui est paralysante. Tandis que la littérature... au même titre que le football, c'est vraiment les arts suprêmes parce qu'il n'y a besoin de rien. Et c'est pour ça que c'est aussi populaire et que tout un chacun peut écrire, au même titre que tout un chacun peut jeter deux t-shirts par terre et avec une balle ou une canette entamer une partie. Et du coup, cette facilité d'accès, elle est jouissive.
Ça vous donne envie d'écrire d'autres livres ?
Ah, moi, c'est sûr. Moi, j'en ai déjà...
Oui, il y en a un en cours ?
Il y en a un, moi j'en avais écrit un deuxième dans l'attente et dans le processus de création et d'édition, tu vois, comme ça prend quand même du temps et que moi je l'ai écrit, mais après il s'est passé beaucoup de temps avant que j'ai la possibilité de le rendre public. Du coup j'avais écrit un autre, mais oui, j'ai d'autres...
Ah d'accord, donc c'est pas fini. Marie-Bert, je reviens au dialogue de votre roman. Vous êtes metteuse en scène et vos dialogues sont très incarnés. Ça tombe bien, on a donc un acteur avec nous et on s'est dit que ce serait amusant de vous proposer une lecture à deux voix, un petit extrait de votre roman Être de papier, lu ensemble. Alors j'ai mis des petites indications sur le texte pour vous aider l'un l'autre. Essayons. Alors Marie-Bert, j'ai choisi le passage, pour vous contextualiser, où Yann, incarné donc par Raphaël Quenard, vient de découvrir que sa femme, Aline, lui a menti, elle n'a jamais enseigné, et il la confronte alors qu'elle est sur son lit d'hôpital puisqu'elle a eu un accident. C'est à vous deux, on commence par vous, Raphaël Quenard.
J'ai appelé ton boulot pour annoncer que tu ne reviendrais pas avant un bout de temps qu'ils puissent s'organiser pour te remplacer dès demain.
Merci.
T'entends ce que je te dis là ?
Bah, je suis un peu shootée.
J'ai appelé ton boulot, Aline.
Merci.
J'ai appelé l'école. J'ai appelé l'école, j'ai dit, je suis le mari d'Aline, je viens d'apprendre que ma femme a eu un accident en courant prendre son bus et qu'elle ne pourra pas revenir travailler avant plusieurs semaines.
J'espère que tu ne les as pas affolés.
À savoir.
Merci, c'était bien. Franchement, j'aurais dû faire plus long. Je regrette un peu. Non, mais c'est marrant cette scène de déni, cette femme qui est confrontée par son mari, parce qu'évidemment, il a appelé l'école et elle fait comme s'il ne se passait rien.
Oui, c'est vrai qu'il y a un doute. Est-ce qu'elle est vraiment avec nous? Parce qu'elle vient d'avoir un accident et puis donc elle est un peu shootée par les médicaments. Et ça, c'était très bien rendu par la comédienne Isabella de Mores.
Et par vous aussi.
Merci.
Thomas Auxerre, notre libraire, est toujours en studio avec nous. Vous avez adoré ce texte, Thomas, et vous aviez une question à poser à Marie-Bert.
Oui, c'est vrai que votre livre m'a beaucoup plu. Hein, votre style sensible. C'est vrai que plus on avance et moins on est certain de la réalité des choses. Moi, j'adore quand on mène par le bout du nez. Et justement, sans dévoiler la fin, je voulais savoir justement si cette fin, elle s'est imposée d'emblée, voir si c'était le point de départ de votre roman, ou bien si elle est apparue au fur et à mesure de l'écriture.
Alors, dans la pièce de théâtre écrite pour ce prix, la fin s'est révélée vers 22h quand il fallait arriver quelque part, mais c'était quand même une évidence pour moi.
La fin est...
Parce qu'elle est inoubliable. Enfin,
oui, la fin est...
Il y a voilà. La dernière phrase.
On va donner envie à tout le monde de le lire, parce que vraiment, la fin vaut le coup. Merci Thomas, Marie-Bert, Raphaël Quenard. On se retrouve dans quelques instants pour les conseils lecture de nos libraires francophones. Mais avant, on écoute Celia Wa, Ola.
Ou pâti ou volé, couru, mon chacho, mon page est trouvé. Allez là, mon commandé, mon commandé, qu'a qui passe.
Quand sirène la sonné, mon commandé, qu'a qui passe. Mon commandé, qu'a qui passe. Quand sirène la sonné, mon commandé, qu'a qui passe.
Bienvenue dans l'émission Etc. Nous sommes toujours en compagnie de l'autrice suisse Marie-Bert et de l'acteur touche-à-tout Raphaël Quenard. C'est l'heure des conseils lecture de la semaine.
Etc. Lilia Hassel.
Thomas Hausser, vous êtes toujours avec nous et vous aviez une suggestion de lecture pour Raphaël Quenard.
Absolument. Raphaël, si je voyais franchir le pas de ma librairie, l'Amandier plutôt donc, moi je vous conseillerais Last Exit to Brooklyn d'Hulbert Selby Jr. en poche 10-18. Alors tout à l'heure, vous avez parlé dans le générique du démon de Selby, donc bon, bah, je pensais pas tomber aussi juste.
Ouais, vraiment, je pensais à vous.
ouais, c'est ça. Mais donc dans Last Exit to Brooklyn, parce que quitte à aller dans le nihilisme le plus total, au désespoir le plus noir, bah, autant y aller accompagné par le maître du genre, qui a écrit ce roman devenu culte dans les années 60, et dans la suite Retour à Brooklyn a d'ailleurs donné le film Requiem for a Dream. Alors moi, je pense que vous pourrez découvrir, je ne sais pas si vous l'avez encore lu, mais la faune d'un quartier minable de Brooklyn, avec des personnages vraiment inoubliables, obsédés par le sexe, la violence, l'alcool. Alors il faut être un petit peu en forme hein, quand on lit, parce que bon, c'est vrai que c'est désespéré, c'est cru, mais c'est sublimement trash. Mais moi, je suis sûr que vous en sortirez très très bien, Raphaël.
Je vais m'empresser de le compulser. Ah, mais voilà, en plus, vous me l'offrez, mais vous êtes le meilleur, sympa. Carrément, exceptionnel.
Et c'est vrai que c'est un très beau livre.
On va mettre à profit les quelques minutes qui suivent l'émission pour entamer la lecture.
Ça, je vous crois pas du tout, mais Last Exit to Brooklyn, Hulbert Selby Jr. C'est un livre de poche, en plus, c'est génial, et c'est un roman culte qui mêle plusieurs histoires, effectivement, des histoires de prostituées, des histoires de travestis, des hommes qui... Des personnages hauts en couleur, effectivement assez durs, mais dans un style qui est vraiment marquant. Et vous, Raphaël Quenard et Marie Baird, si vous deviez recommander un livre à nos auditeurs, Marie Baird, ce serait quoi ? Est-ce qu'il y a un livre que vous nous recommanderiez pour l'été ?
Oui, Noyade de Céline Spirer, qui est une...
Je ne l'ai pas lue, alors.
Compatriote suisse, et qui a travaillé... Elle a fait des études d'écriture de script de cinéma. Donc, ses dialogues aussi sont très intéressants, et tous les personnages sont visités de l'intérieur. C'est un livre dynamique qui se lit vite et bien.
Bon, c'est très bien pour l'été. Et vous, Raphaël Quenard,
Moi, je dirais Jamila de Chingiz Aitmanov. Et c'est pour ceux qui ont envie de lire et de se plonger dans les remous d'une histoire d'amour dans la plus pure version qui puisse être. Et franchement, c'est un livre incroyable qui, moi, m'a foudroyé. Et qui m'a rappelé aussi un autre film, si c'est possible de donner un film aussi, en accessoire.
On est très libre.
C'est Le Retour des Hirondelles, un film chinois sur une histoire d'amour entre une femme incontinente et rejetée qui est mariée de force avec...
Vous aimez bien les femmes incontinentes, dis donc, on en a une dans votre roman déjà.
Elle n'est pas incontinente.
Elle est incontinente, ouais, je me souviens très bien. Je vous ai lu, Raphaël Quenard.
Si, un petit peu. C'est vrai que sa couche, elle contient quelques secrets. Mais du coup, il y a ce film, et elle est mariée avec un homme voilà, sur le déclin, et qui pareil est un peu imperdu et qui commence à avoir un certain âge et ils vivent une histoire d'amour sous la pression du gouvernement chinois qui vient s'accaparer leur maison et ils doivent en reconstruire une dans la campagne et tout à la force des bras et à coups de torchis et en fait ils reconstruisent tout et bon je laisse au spectateur la surprise de découvrir cette ode à la simplicité, à la pureté.
Ce que vous me dites, ça fait penser au film Le Chat avec Simone Signoret et Jean Gabin, c'est un peu...
C'est une histoire de détestation dans une maison où les gens ne se parlent plus et se communiquent à coups de pizzini comme les mafieux italiens.
Mais ils sont délogés par les promoteurs. Exactement. Merci à tous les deux, c'est la fin de cette émission. Je ne pensais pas parler d'incontinence à la fin de cette émission, mais bon voilà. Je rappelle le titre.
On a parlé de fuite toute l'émission,
c'est cohérent. Clamsea Tatawin, c'est le premier roman de Raphaël Quenard paru chez Flammarion. Personnellement, j'ai beaucoup ri car vous allez loin et je crois que c'est aussi le rôle de la littérature que d'oser et déborder parfois. On parle encore de fuite, même si j'avoue qu'il y a un ou deux jeux de mots dont je me serais bien passée. Une phrase quand même, je vous cite, nos recoins les plus obscurs ont ceci de paradoxal qui nous éclaire. J'ai trouvé ça très beau. Merci également à Marie Baird d'être venue nous présenter son roman Être de papier, publié aux éditions Encre Fraîche. Je ne dévoile pas la chute, mais le retournement est génial. On l'a beaucoup dit, mais je le redis. Je n'emploie pas ce mot tous les jours. Merci aussi à nos libraires du jour, Catherine Koller et Thomas Hausser, ainsi qu'à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Pauline Laverdure à la technique, Estelle Gab, Virginie Rosic et Manon Grandière. Je salue également notre stagiaire de seconde, Pauline Delacroix, et précise que cette émission est réalisée en coproduction avec les médias francophones publics. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Merci à vous.